Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et des réflexions sur les principaux enjeux culturels. Votre rendez-vous culturel, c'est à tous les mercredis sur les ondes de Chiz 94.3 de 14h à 15h.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
La tournée 95 s'arrête au Centre Vidéotron le 27 avril prochain. Les billets sont en vente maintenant sur Ticketmaster.ca. Angèle au Centre Vidéotron le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95, en vente partout.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Cool. la bonne c'est la victoire. Cause I'm in war but my season. J'suis fucked up but not even. Sexy depuis 9 milli dans le meeting. Tiré sur tout ce qui bouge. Sporte le bleu et le rouge. Mais le respect sur mon cou. On fume le deck et on se fait la bouche. J'dog and buff. Yeah you know what's up. Shorty in a rush. Spill it out the guts. J'dog and buff. Et j'en talk and note. Je l'ai caché dans le code. You better believe on est ready to go. Don't fall asleep now. There's nothing left to dream about. Gotta wake up for yourself. Gotta take the time to feel it out. Oh, believe me, fans just feel now. Gotta listen to yourself.
Yeah, I ain't thinking I'm waste, man. But they wasting time trying to waste, man. But Loki, look up to me. Recite seed from my waist, man. I'm a change, man. I know that she feel it, how the range end. And I'm moving like Van Damme fighting in the wasteland. Semi-cure type shit, even late.
I ain't picking the cuts on the stage. Fuck, don't mean the mum wage. Checking the cage. Ma pétain en car, yeah. Yeah, je rouge comme le yard. Brûlez vos business. Brûlez vos buttons. Je crête les secrets. Brûlez ton casse. Fucking the top si je viens cacher le body. Fucking the copy, j'en body le OG, yeah.
Strong and buff. Yeah, you know what's up. Shorty's in a rush. Spill it out the guts. Stroking buff, et j'en talk une autre. Je l'ai caché dans le code, you better believe on est ready to go.
Don't fall asleep now. There's nothing left to dream about. Gotta wake up for yourself. Gotta take the time to feel it out. Oh, believe me, fair, just feel now. Gotta listen to
Bonjour tout le monde, bienvenue à Chiz au 94,3 avec l'émission Conduite Antisportive, animée par moi-même Félix Lajoie. Donc aujourd'hui, on va parler Coupe du Monde. Alors que le Canada va commencer sa Coupe du Monde mercredi, on va parler des 26 joueurs qui ont été sélectionnés par l'équipe. Puis on va également, en deuxième partie d'émission, parler de nos prédictions pour la Coupe du Monde, alors que je suis avec Zachary Lajoie qui va nous rejoindre sous peu. Donc on va parler de nos prédictions alors que la compétition a commencé hier avec le Qatar qui a affronté l'Équateur. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la présentation de mon invité, Zachary Lajoie. Parce que, ouais, je pense qu'on t'entend.
Bon.
Donc, bonjour Zachary, comment ça va?
Ah, ça va bien toi?
Ça va très bien. Écoute, Coupe du Monde commence bientôt. En première partie de l'émission, on va parler du Canada. Donc, le Canada qui a sorti sa liste des 26 joueurs. Donc, on va commencer par les gardiens de but. Il y a eu quelques surprises, notamment la blessure de Maxime Crépeau. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, écoute, Crépeau, en fait, pour la situation dans laquelle il était avec le LFC, on va dire que c'est une blessure intelligente. Ça a permis à son équipe de remporter le trophée à la MLS. Mais c'est sûr que pour le Canada, c'est dommage parce que Maxime Crépeau, on connaît ses qualités. Ça aurait été une très bonne doublure à Milan Borjan. Puis surtout, ça aurait pu être éventuellement le numéro un. Peut-être pas cette année à la Coupe du Monde, mais éventuellement. Puis c'est sûr qu'une expérience de Coupe du Monde, surtout pour une doublure en tant que gardien, c'est des performances qui sont quand même importantes à aller chercher. Mais je pense qu'on est quand même capable d'avoir des bons gardiens en supplément. Puis surtout, il nous reste Milan Borjan en avant. Fait que c'est dommage, mais je pense que c'est pas la plus grosse perte qu'on aurait pu avoir.
Ouais, effectivement. Bon, ça a ouvert la porte à James Pantemis qui a eu la chance d'être invité en tant que troisième gardien. Et puis là, je te pose la question. Selon toi, qu'est-ce que tu penses en termes de deuxième position de gardien? Car on sait que Borjan, il est quand même vieux. Donc, c'est probablement sa dernière Coupe du Monde. Et puis là, on a Dane Sinclair et Pantemis, deux gardiens qui n'ont pas d'expérience internationale. Crépeau, il avait joué certains matchs en qualification. Puis là, on a deux gardiens qui n'ont aucune expérience et puis qui ont quand même fait une belle saison MLS, mais la MLS, c'est loin d'être la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses qu'il y a une hiérarchie pour cette deuxième position de gardien, venant au cas où Borjan serait peut-être blessé?
Ben, je pense qu'on a peut-être un... je pense qu'un Pantémis, c'est peut-être quelqu'un qui a l'expérience avec un Montréal, qui est une équipe de Montréal qui est très dynamique. C'est sûr que l'équipe du Canada, c'est une équipe qui est très, très dynamique. On peut le voir dans tous leurs matchs. Une équipe qui aime attaquer, qui on joue surtout une formation à trois défenseurs avec deux pistons, comme Montréal l'a souvent fait cette saison, si ce n'est pas quasiment toujours. Fait que je pense que Pantémis, c'est quelqu'un qui est capable de prendre cette place de doubleur. Après ça, vu qu'il connaît un système assez dynamique à Montréal, mais après ça, les deux n'ont pas de sélection encore. Fait que je crois qu'il n'y a pas vraiment un qu'on peut dire qui est mieux adapté que l'autre. Je pense que les deux on serait capable de faire valoir leur talent sous le terrain.
Oui, effectivement. Et puis, parlons-en justement des joueurs du CF Montréal, alors qu'en défense, également au milieu de terrain, on va avoir beaucoup de représentants de notre équipe ici à Montréal. Donc, on a en défense, on a Alistair Johnston, Kamal Miller, puis on a également Joel Waterman qui a réussi à se faire un poste au niveau de l'équipe. Selon moi, je vois Kamal Miller et Alistair Johnston sur le 11 partant. Puis, toi, comment vois-tu cette défense derrière?
Ben, avec Kamal Miller, déjà, on a un défenseur central très, très solide. Qui a de la vitesse, puis surtout qui est très serein sur le ballon. C'est pas un joueur qui est très stressé avec la balle. On voit vraiment qu'il y a une aisance technique avec, surtout qu'il va être accompagné possiblement de Steven Vittoria, un défenseur pas très rapide, j'en conviens, mais qui, encore une fois, il a un très bon sang-froid, puis aussi une très bonne anticipation. Pour ce qui est d'Alistair Johnston, ben, je pense que en fait c'est le supplément parfait pour les deux. C'est un défenseur qui est capable de monter assez haut, mais qui est capable aussi de jouer latéral. Donc, quand il y a des forces de transition, il est capable de redescendre dans le poste de latéral droit. C'est par exemple un Richie Larea monte un petit peu trop offensivement, il est capable de régresser à sa position puis de couvrir le poste. Pour ce qui est de Joel Waterman, ben, on le sait que c'est un joueur qui est capable de faire des bonnes choses, mais c'est aussi un joueur qui est capable de faire, j'ai envie de dire, des erreurs idiotes, sans forcément dire que ben, c'est juste des erreurs idiotes qu'il fait, mais il est capable d'en faire, il est capable du meilleur comme du pire. Puis je pense que ben, c'est un joueur qui peut être versatile aussi, parce qu'encore une fois, avec l'équipe de Montréal, une équipe dynamique, l'équipe de Wilfred Nancy, c'est une équipe qui ressemble au système de jeu Iron Man. Fait que je pense que c'est un défenseur qui peut apporter quelque chose à l'équipe.
Ouais, effectivement. Et puis on l'a vu, Waterman qui a été appelé en équipe nationale. Et puis lors du match amical face au Bahreïn, il était sur le banc. Et puis Donnell Henry qui s'était blessé juste avant. Donc finalement, Jarman nous a mentionné qu'il a laissé sa place à Waterman. Donc Waterman qui ira à la Coupe du Monde. Mais sur l'11 partant, ça c'est une question qui, malheureusement, on va avoir nos réponses mercredi. Mais selon moi, ce n'est pas possible. Et puis on a vu lors du match amical face au Japon, un système à 5 défenseurs, donc 3 défenseurs centres et puis 2 latérales en Richie Larea et Adekugbe. Donc probablement, on va voir comment Herdman peut justement utiliser ces atouts-là à son jeu. Mais on va voir que toi, de ton côté, est-ce que tu penses qu'une défense à 5 ou une défense à 4?
Mais moi, je pense que de ce qu'on voit des matchs de Herdman en général, il aime bien utiliser une défense, en fait une défense, j'ai envie de dire transition. En fait, quand on est en offensive, Larry a découpé, monte assez haut, même très haut. On l'a vu justement. Moi, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est le match contre les États-Unis, je crois, ou le Mexique, où ce qui a découpé, non, les États-Unis, où ce qui a découpé est monté très haut. C'est lui qui a marqué le dernier but pour crucifier les États-Unis. John Herman aime vraiment ça, faire monter ses latéraux. Justement, des fois, c'est ce qui peut coûter sur les transitions. Mais j'imagine que si on se retrouve face à une équipe qui défend assez bas, je pense qu'il va être capable de gérer un petit peu ses latéraux et aussi ses milieux qui vont être capables de prendre leur position. Mais je pense que une défense à trois transitions, à cinq peut-être dans un système défensif, ça peut être la solution. Puis une défense à quatre, c'est sûr, dans les tactiques de John Herman, c'est pas vraiment quelque chose qui a été très très utilisé. C'est surtout une défense, encore une fois, à cinq, à trois. Je pense que ça va être ça qu'on va voir pendant la plupart de nos matchs. Puis d'après moi, c'est ça qui va nous faire aller chercher des points.
Ouais, t'as bien raison. Et puis on a vu justement, John Herman, il a cette capacité-là à s'adapter à son équipe. Et puis il peut jouer à 4, il peut jouer à 3, il peut jouer à 5. Donc derrière, c'est parfait. Et puis on a justement un joueur comme Buchanan qui en club joue parfois en défenseur latéral droit. Donc il pourrait possiblement jouer à cette position-là à la Coupe du Monde. Et puis ça fait en sorte qu'au milieu de terrain, on a quand même de la place. Et puis on a deux joueurs qu'on peut faire jouer, un joueur à caractère plus offensif et quelqu'un peut-être plus défensif, mais également deux joueurs qui pourraient jouer avec un style offensif. Je pense à Kone et Eustachio, par exemple.
Eustachio qui a eu des problèmes physiques, c'est pour ça qu'il n'a pas joué contre le Japon. La même affaire pour Borjan, mais c'est des joueurs de haute qualité. Ismaël Kone, justement, t'en parles. Il a été comparé récemment à Yaya Touré. Bon, il n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est un joueur qui a un potentiel autant intéressant offensivement que défensivement. Fait que c'est sûr que avec son milieu, c'est double pivot en fait au milieu, un Sakio puis un Kone ou un Hutchinson qui peut être vraiment plus défensif puis plus pour gérer les phases de transition. C'est sûr que ça peut être très intéressant. Je prends l'exemple du match contre la Belgique qui s'en vient. La Belgique, on sait que c'est une équipe aussi qui a un système semblable à Ironman, trop défenseur, avec deux pistons qui peuvent redescendre, qui peuvent remonter. Je pense que ça va être important d'avoir un milieu qui est capable de rapidement envoyer les ballons sur les ailes, surtout avec la vitesse d'un Davies, d'un Buchanan, d'un Laria, d'un Dekoubé. Ça va être des phases de transition qui vont être importantes, d'après moi, dans le match. Puis un Eustachio, ça serait important qu'il soit en santé pour ce match-là, mais si jamais il n'est pas adéquat, un Hutchinson Kone. Hutchinson peut-être pour venir combler les lacunes défensives de Kone, puis Kone ben, pour son flair offensif qui ça pourrait être intéressant.
Assurément. Et puis on a un autre Québécois au milieu de terrain, Samuel Piette, qui a disputé un match face au Japon. Il était sur le 11 partant. Ça a été un petit peu plus difficile pour lui. On sait que Piette, c'est un joueur vraiment à caractère défensif. C'est un joueur qui va gratter les ballons, va récupérer des balles. Mais lorsqu'il s'agit de procurer de l'offense à son équipe, faire des balles aériennes ou tout simplement des transitions vers l'avant, c'est plus compliqué. Donc à ce niveau-là, c'est sûr qu'on préférerait un Hutchinson s'il est en forme, mais un Eustachio également qui a eu une blessure, qui devrait jouer le premier match plutôt face à la Belgique. Donc ça reste à voir à ce niveau-là, mais puis sur le banc, il y a également des belles options. Je pense à Osorio, Marc-Anthony Kay. Ouais. Donc il y a quand même une belle profondeur assez intéressante pour justement alimenter nos attaquants. Et puis devant, là, c'est la question qui on fait jouer. On a Davies, on a Liam Miller, on a Larin, Buchanan, et puis on a Jonathan David.
On a une belle petite troupe offensive. Écoute, souvent, Davies, il va souvent acquérir ce rôle de milieu offensif dans l'équipe parce qu'en tant que milieu offensif, il peut se permettre d'être vraiment partout sur le front offensif. Puis surtout, ça le permet de revenir en arrière. On sait que Davies, il est latéral au Bayern. Donc, sa capacité offensive et défensive sont vraiment pas négligées. Puis surtout, que quand tu le mets en milieu offensif, des joueurs comme Davies qui est capable de marquer de deux pieds ou d'un Larin, que c'est pas le joueur le plus rapide, mais c'est un joueur très costaud. Puis c'est un renard des surfaces. Ça peut vraiment être dangereux pour les autres équipes. Buchanan qui a une qualité de percussion incroyable, mais je pense que d'après moi on va voir un trio offensif plus souvent de David, Larin puis Davies. Même si un Cavallini n'est pas forcément exclu une fois de temps en temps, mais je pense que Cavallini ses petits problèmes de comportement des fois peuvent peut-être coûter à l'équipe ou coûter justement à lui-même dans ses performances. Mais je pense qu'offensivement, le Canada, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on a vraiment des profils différents à l'attaque. Un Buchanan qui est plus rapide, qui est capable de perforer les lignes. Un David qui est capable de marquer n'importe où. Puis un Larin qui est vraiment costaud dans la boîte. Fait qu'on a vraiment trois types de joueurs différents. Puis ça fait... C'est vraiment... une menace pour les autres équipes.
Ouais, effectivement. Et puis, on en a parlé tantôt. J'en ai parlé, en fait. Erdmann, il a cette capacité à changer de dispositif en match. Donc, il peut très bien commencer le match avec deux attaquants de pointe, avec des ailiers, et puis, par la suite, en cours de match, changer. Mais bon, c'est sûr qu'on veut voir Davies sur le terrain et à 100%, car il a eu des blessures récemment. Donc, ça serait bien qu'il soit là. Mais on veut également voir un joueur comme Buchanan, qui est assez percutant. On veut également voir David et Larin. Mais là, il va falloir faire en sorte que tout ce beau monde joue en même temps. Et puis, ça va être la clé, justement, face à la Belgique. La Belgique qui est première adversaire du Canada, mercredi 14h. Donc, ça va être à voir. Un match va être assez intéressant. Puis, la Belgique, c'est une équipe défensivement, ça se fait vieux. Pas vraiment de vitesse en défensive. Donc, il y a quelque chose à aller chercher là, du côté du Canada. Et puis, c'est également, ce sera en fait la clé du match. Il va falloir marquer. Et puis, il va également falloir percer cette muraille qui est Thibaut Courtois dans le filet. Donc, qu'est-ce que tu en penses qui vont être les clés, les aspects, les atouts pour battre la Belgique?
Mais écoute, je pense sincèrement que Thibaut Courtois, ça va probablement être la plus grande menace pour le Canada. Bien sûr, Lukaku qui est blessé, qui jouera pas les deux premiers matchs de la Coupe du Monde. Un Eden Hazard qui est vraiment pas en forme. Kevin De Bruyne qui performe toujours autant. Loïs Openda aussi qui est sur une bonne lancée à Lance. Leandro Trossard aussi qui joue très bien. Mais je pense que ce qui va être important pour le Canada dans ce match-là, ça sera pas de se faire des illusions. Il va falloir garder la tête sur les épaules, comme on dit, parce qu'on sait que la Belgique, même si la défense se fait vieille, il y a pas des nouveaux joueurs comme Théaté qui jouent à Bologne, comme Fès qui est arrivé à Leicester. C'est des joueurs dynamiques, des bons joueurs. Puis le Canada, faut pas qu'il arrive là en se disant Lukaku est blessé, Hazard est passé, et puis dans sa meilleure forme. Il y a Carrasco encore qui reste un joueur percutant, mais ça reste que c'est une équipe, comme tu dis, qui se fait vieille. Donc le Canada, vraiment, je pense qu'il va falloir qu'ils ne deviennent pas gourmands avec le ballon ou gourmands avec la façon de jouer, puis qu'ils jouent leur jeu qu'ils ont joué depuis la Coupe de la CONCACAF, un jeu serein, attaquant. Il va falloir qu'ils soient vraiment offensifs, c'est ça que je voulais dire, offensifs, puis que défensivement, ça reste solide, parce que on n'est pas à l'abri d'une passe magique ou d'une frappe magique de Kevin De Bruyne de loin.
Ouais, c'est vrai, puis c'est ça, le Canada va avoir ses atouts à jouer, ils peuvent définitivement faire un bon match et puis sortir une bonne performance. Justement, il va falloir faire attention, il va falloir jouer notre match, jouer son match, et puis sur un contre-attaque, il y a peut-être moyen, car c'est la Belgique, c'est une grosse effectif, mais c'est une équipe également qui, la génération dorée est un petit peu passée, si on peut dire ça comme ça. Et puis récemment, un match amical, et ils ont perdu face à l'Égypte 2-1. C'est une défaite qui ne va pas... En arrivant à la Coupe du Monde, la Belgique, bon, ils sont sur une défaite. Lukaku blessé. Donc ça, c'est vraiment... On sait que De Bruyne, sa cible de prédilection, c'est Lukaku. Il veut envoyer les centres vers Lukaku dans la surface de réparation pour qu'il, justement, gagne les duels de la tête. Et puis, face à la défense du Canada, peut-être qu'il aurait réussi ça, mais je pense qu'il y a vraiment un coup à aller jouer face à la Belgique. Et puis, par la suite, si on peut aller chercher des points sur ce premier match, ça nous mettrait vraiment en confiance pour le reste.
Ouais, bien, c'est certain. Écoute, vraiment, moi, je pense que ce match-là, je ne veux pas dire qu'il va être décisif pour le reste de notre phase de groupe, mais je pense que ça va être un match qui va montrer aux joueurs, puis surtout aux supporters du Canada, la difficulté du niveau international, mais aussi comment les joueurs peuvent réagir à une situation. T'sais, comme je dis, on n'est pas à l'abri d'un coup de magie par Kevin De Bruyne, puis si Kevin De Bruyne décide qu'il passe tout le milieu de terrain, il ne faut pas que les joueurs ils se découragent, puis prennent ça mal, parce que c'est sûr qu'au milieu de terrain, il va y avoir des niveaux de différence entre Kevin De Bruyne et un Stephen Ostakio qui joue très bien en ce moment, même à Porto, qui est sur une bonne lancée. Mais Kevin De Bruyne, ça fait 5-6 ans que c'est dans le top 10 mondial. Fait qu'il faut vraiment que les joueurs du Canada, comme j'ai dit plus tôt, faut qu'ils gardent la tête sur leurs épaules, puis qu'ils restent focalisés sur leur jeu, puis non, se laissent amadouer par le talent des...
Assurément que la bataille au milieu de terrain sera décisive dans ce match, et puis on a besoin de nos meilleurs joueurs en forme. On a vu Davies Eustachio qui aurait pu peut-être ne pas jouer à des blessures, mais finalement on a rassuré dans les médias Davies Eustachio qui seront du match et qui vont jouer ce premier match face à la Belgique, ce match qui sera assurément décisif. Et puis par la suite, on a la Croatie et le Maroc, donc on finit avec le Maroc, en deuxième on a la Croatie. Selon moi, l'équipe la plus menaçante dans ce groupe, c'est la Croatie. Qu'est-ce que t'en penses, Zachary?
Je suis 100% d'accord avec toi. La Croatie aussi se fait vieille. On n'a pas perdu des joueurs, mais il y a des joueurs qui ont été mis de côté. Je pense à Ante Rebic, qui n'est pas forcément une grande ceinture avec Milan, mais c'est un profil tenace. La Croatie se fait vieille aussi, mais encore une fois, Luka Modric, un joueur d'exception. Une défense qui reste solide. Bon, c'est sûr que tu perds des vétérans depuis la dernière Coupe du Monde. Je pense à Corluka, Donc, vraiment, tu perds certains joueurs, mais à l'inverse aussi, t'as des joueurs qui restent solides et qui sont encore là. Je pense à Domagoj Vida, qui en 2018 avait fait une Coupe du Monde juste sensationnelle. Dejan Lovren, qui encore une fois derrière, c'est solide. Puis comme tu dis, je pense que c'est souvent l'adversaire le plus difficile parce que les Croates, c'est une équipe qu'on l'a vu en 2018, une équipe qui lâche jamais. Jusqu'à la dernière seconde, ils vont se battre. Puis avec des joueurs de talent aussi, des Orsic, des Kramaric, des Modric, encore une fois, c'est une équipe qui peut vraiment être très dangereuse pour le Canada. On a joué contre des équipes plus, j'ai pas envie de dire laxistes, mais des équipes qui étaient plus, qui étaient moins, disons, voilà, la 80e minute, qui se donnaient encore, mais qui n'avaient pas encore le couteau entre les dents, comme on dit, puis qui menaçaient pas autant que la Croatie est capable de faire.
Ouais, la Croatie qui a démontré durant la phase de qualification qu'ils étaient encore une nation au top par Luka Modric, Kovacic, Brozovic également au terrain. Oui, et puis
Brozovic,
là, ça
excellent milieu de terrain à l'Inter Milan, on le voit bien.
Ça nous amène à parler du Maroc, dernier adversaire du Canada. Donc, on entend parler, oui, le Maroc, c'est une équipe qu'on doit battre, mais c'est une équipe qui, sur papier, peut faire peur. Et puis, en amical, récemment, ils ont montré un très bon résultat. Donc, c'est une équipe qui, Canada, devrait aller chercher des points. Oui. Mais qu'est-ce que tu en penses justement de cette équipe du Maroc?
Le Maroc, en fait, ils ont perdu malheureusement Amine Harit qui s'est blessé la semaine dernière face à Monaco. Mais ils ont quand même Hakim Ziyech. Là, je vais sortir les gros noms. Là. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi. Surtout ces deux-là. Bien sûr, il y a plein d'autres joueurs qui sont très talentueux dans l'équipe du Maroc. Mais quand je pense au Maroc, c'est principalement ces deux joueurs-là que je pense. Puis aussi Yacine Bounou, d'origine canadienne aussi, qui est né à Montréal. Mais c'est une équipe qui a un très bon collectif, mais c'est une équipe qui a changé d'entraîneur quand même assez brusquement, relativement récemment. Puis donc c'est une équipe qui est pas peut-être à 100% au niveau de leur tactique et au niveau de la cohésion d'équipe, surtout avec un retour de Hakim Ziyech, un Mazraoui aussi à qui je pense.
Ouais.
Fait que je pense que c'est une équipe qui peut être dangereuse, mais qui va peut-être coûter au goût un peu de son du j'ai pas envie de dire le karma, mais un petit peu au goût du revirement de situation avec leur entraîneur et de peut-être leur choix de tactique. Donc je pense que c'est une équipe qui on est capable d'aller chercher des points, on est capable d'aller battre éventuellement aussi. Puis en fait, chaque équipe, on est capable de battre chaque équipe, on le sait ça, mais ça va tout être des matchs difficiles, ça sera peut-être pas des matchs sans enlever de crédit aux nations des Caraïbes qui nous ont souvent battus dans les dernières années, mais contre qui on a peut-être, j'ai envie de dire, eu pas forcément plus de facilité, mais peut-être des automatismes plus efficaces contre ces nations-là. Mais c'est quand même un autre niveau, puis je pense que c'est toutes des nations qu'on est capable de battre, mais ça va être des matchs à 120% à chaque fois.
Ce sera définitivement un gros test qui va attendre le Canada, alors qu'ils vont affronter la Belgique, la Croatie, également le Maroc, donc ça commence mercredi. Et puis le Canada, on le sait, bon, c'est la Coupe du Monde en 2022, tout le monde est content, ça fait depuis 1986 qu'on n'y a pas été, et puis là, les attentes sont quand même élevées, on a une belle équipe, mais il faut savoir que cette équipe-là, en 2026, elle va encore être présente, donc rapidement, on va jouer les prédictions, on va donner nos prédictions sur les autres groupes. Et puis là, je veux entendre des prédictions sur le Canada. Selon toi, cette année, qu'est-ce qui serait bien pour le Canada? Donc, qu'est-ce que on prépare la compétition de 2026 qu'on va avoir au Canada notamment? Donc, qu'est-ce qui serait bien? Un point, trois points, cinq points?
Moi, je pense que le Canada serait capable de finir troisième du groupe, honnêtement, peut-être devant le Maroc. Moi, je pense que, en fait, si on idéalise avec nos joueurs, je pense que le Canada est capable d'aller même aller chercher une deuxième place. Mais encore une fois, sur la scène internationale, Coupe du Monde, une première depuis 86, je pense que ça va être difficile pour les joueurs canadiens de garder ce niveau de constance. Fait que moi, je pense que si on finit quatrième, je pense que ça serait difficile, mais je pense que le Canada est capable d'aller chercher au moins un point.
Ouais, effectivement. Donc là, on va aller en pause publicitaire et puis au retour, on va parler de nos prédictions pour le reste des groupes.
Sur une distance de 20 mètres, la Coupe Vanier au bout du pied.
C'est la balle! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Cheese 94.3 FM.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire. L'aide aux devoirs, Jexcel.com, c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant, avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif. Que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de Jexcel.com. Postule dès maintenant au jexcelle.com.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en
Quand
viens...
on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
On est de retour ici à Chiz au 94,3. Je suis accompagné de Zachary Lajoie. Donc, on est en deuxième partie d'émission. On va parler à conduite antisportive de la Coupe du Monde. Donc là, on va se mouiller un peu avec nos prédictions. Donc, on sait qu'il y a quelques matchs qui ont commencé, donc notamment dans le groupe A et le groupe B qui se joue présentement entre les Pays de Galles et les États-Unis. Mais nous, on va parler du groupe A avec les Pays-Bas, l'Équateur, le Sénégal et le Qatar. Donc, le premier match de cette Coupe du Monde, il a posé le pays hôte, le Qatar, à l'Équateur. Donc, Zachary, rapidement, tes impressions sur ce match?
Ben déjà, on a vu un petit peu... on a un petit peu un avant-goût, peut-être, du niveau que l'Équateur et le Qatar peuvent nous proposer. On a aussi vu des débuts de la rencontre, des choix arbitraux un petit peu mitigés. Écoute, je peux pas confirmer que c'était un hors-jeu ou que c'était pas un hors-jeu sur le premier but de l'Équateur. Ça a été décidé que c'était un but hors-jeu. Moi, je pense que les images sont peut-être un petit peu... ils sont peut-être un petit peu biaisés, mais en tout cas, le but a été refusé, mais que l'Équateur a quand même gagné, puis ils ont aussi proposé du très bon football face au Qatar, le pays hôte. C'est la première fois de l'histoire que le pays hôte perd le match d'ouverture.
Ouais, c'est quand même assez, surprenant.
Moi, je pense que ça représente un petit peu le... J'ai pas envie de dire le niveau du Qatar, parce que le Qatar, c'est quand même champion d'Asie.
Je pense qu'on s'y attendait, là, si mais je ouais, peux me permettre. Là.
Oui, on s'y attend. Honnêtement, on s'y attendait. Il y avait deux rumeurs comme quoi le Qatar aurait truqué le match.
Ah, j'ai vu.
Mais ça s'est pas concrétisé. Puis bien heureusement, mais on est un petit peu sur le dos du Qatar, mais le Qatar aussi a quand même réussi à proposer quelques bonnes choses dans leur équipe. C'est sûr, ça n'a pas été parfait. On voit vraiment qu'il y a un écart de niveau, mais ça reste que non plus, c'est pas une équipe qui a forcément été à la ramasse tout le long du match. Une équipe qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui était capable de proposer des bonnes situations de relance. Mais l'Équateur avec Enner Valencia qui a fait la une de Twitter hier, justement après sa performance, vraiment une très bonne équipe qui va être à suivre dans ce groupe.
Ouais, effectivement. Et puis parlons de l'Équateur qui, bon, on sait leur deuxième place, ça va être soit eux ou le Sénégal. Et puis le Sénégal de leur côté, ils ont joué ce matin à 11h, malheureusement défaite face aux Pays-Bas, mais ils ont été dans le coup. Donc ils ont perdu à la 85e minute, Cody Gakpo met 1-0, ouais. Et puis 90 plus 9, ils se prennent un deuxième but. Mais Sénégal, on sait, sans Sadio Mané, ça va être compliqué. Ils ont perdu un premier match, mais le match qu'ils doivent gagner, c'est face à l'Équateur et ils peuvent encore se qualifier. Mais j'ai quand même vu une équipe sénégalaise malgré Sadio Mané qui s'est bien débrouillé. Donc pour ce groupe-là, je sais qu'il est déjà joué, mais toi, vite fait, comment tu vois la suite et quelles sont tes prédictions pour la suite?
Ben déjà, si on compare juste au match de matin, bon, le Sénégal qui perd deux joueurs aussi en cours de rencontre, Abdou Diallo puis Kouyaté. J'ai pas encore vu la durée de leur blessure. Est-ce que c'est peut-être juste des claquages, juste des crampes, on ne sait pas exactement. Mais c'est une équipe, du moins ce qu'on a vu du match de matin, on savait que pour eux, c'était un match décisif pour eux et le Pays-Bas, parce que ce serait probablement le match de ce groupe. C'est une équipe qui a joué vraiment offensive tout le long de la partie, puis malheureusement, l'ont perdu. Les Pays-Bas qui ont eu la difficulté, qui ont été un petit peu fébriles défensivement, mais qui ont quand même réussi à montrer que c'est une équipe de grande classe. Moi, je vois les Pays-Bas finir premier. Et après, honnêtement, entre Sénégal et Équateur, je crois que le Sénégal a plus de qualité générale, mais ça reste que l'Équateur, c'est une équipe comme on a vu hier, même si c'était contre le 14, c'est une équipe qui aussi, elle aussi lâche pas, puis c'est une équipe qui a des très bonnes qualités. Fait que je pense que ça va vraiment jouer entre ces deux-là pour la deuxième place, puis on n'est pas à l'abri aussi qu'un des deux finisse meilleur troisième pour le prochain tour.
Ouais, effectivement. Puis bon, selon moi, 14 derniers, ça va être une condition très difficile pour eux. Ça reste à voir, selon moi, 14 derniers. Donc passons maintenant au groupe B. Groupe assez spécial, l'Angleterre, les États-Unis, Pays de Galles également, et puis l'Iran. Donc il y a eu un match ce matin, l'Angleterre qui a complètement atomisé l'Iran 6-2. C'était vraiment une victoire, très belle victoire. L'Angleterre a très bien joué. Seul point négatif, 2 buts accordés. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses justement de ce match?
Ben, l'Angleterre, je crois que ça va être, je vais pas dire une surprise, mais ça va vraiment être une nation qui trouve pas facile à défaire cette année, je pense. Qui arrive d'un euro ou qui ont perdu sur penalty, fait qu'encore pour eux, c'est une défaite crève-cœur. Fait que je pense qu'ils arriveront avec la motivation. Le match contre l'Iran, matin, bon, déjà, on sait que leurs supporters, c'est dans les meilleurs au monde, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais c'est une équipe qui propose ses bons jeux. Southgate, malheureusement, que je pense qu'il est un petit peu dépassé. Niveau tactiquement, qui prend pas des joueurs comme Tomori ou comme plein d'autres joueurs de talent ou qui fait jouer des joueurs peut-être qui devraient qui méritent pas forcément qu'ils méritent pas leur place, mais des joueurs qui sont peut-être plus performants. Mais je pense que l'Angleterre ce matin, ça a vraiment été une victoire importante. Les buts, comme tu dis, ont peut-être fait un petit peu mal, mais le dernier but de l'Iran, c'est un but qui est honnêtement le penalty. Bon, je pense que c'est un penalty de consolation qu'on a donné.
Assez sûr aussi.
Je suis un penalty de consolation, je pense. Mais les buts accordés non plus, j'ai pas vu, je vais être honnête, j'ai pas vu le premier but de l'Iran. Mais le deuxième but, c'est un penalty, puis c'est pas John Stones sur la faute qu'il a commis. Il était un petit peu dépassé, mais encore une fois, John Stones, s'il touchait pas, je pense pas qu'il y avait but non plus. Enfin, je pense vraiment que c'est plus. Ils ont pas à s'inquiéter, l'Angleterre, des deux buts qui se sont pris, mais je pense vraiment que c'est peut-être des choses à travailler dans les entraînements de Southgate.
Assurément. Et puis, bon, comme tu l'as mentionné, l'Angleterre, j'en avais parlé également sur l'émission dans les semaines précédentes, la non-sélection de Tomori, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui, bon, Southgate, je comprends pas sa fidélité envers certains joueurs. On pense à Maguire, on pense à des joueurs comme Maguire, mais également comme Luke Shaw, donc certains joueurs comme ça, donc je comprends pas vraiment, alors qu'il y a d'autres joueurs qui auraient pu jouer, on pense à Tomori principalement, donc
Connor Cody encore aussi qui est pas vraiment forcément dans ses meilleurs éléments récemment. Maguire a bien joué ce matin.
Ouais, il joue bien en scène internationale, mais
en sélection il joue bien, mais le problème avec
au
Maguire
club, c'est difficile.
Au club il y a de la difficulté, puis je pense que Maguire ça va vraiment dépendre de son s'il fait une mauvaise performance par exemple dans le prochain match de l'Angleterre contre les États-Unis. Honnêtement, c'est peut-être ça qui peut coûter à Southgate et à Maguire, mais si Maguire reste sur une bonne lancée comme qu'il est aujourd'hui, puis qu'il reste dans une bonne mentalité, je pense que ça peut quand même être solide, mais c'est sûr que la non-sélection de Tomori, ça a surpris tout le monde, puis je pense que Tomori en premier, qui aurait pu jouer pour le Canada d'ailleurs, qu'on aurait aimé récupérer, mais Southgate qui a joué un coup de poker, puis qui l'a sélectionné dans des matchs pas vraiment importants face à San Marino, donc ouais.
Ouais, donc c'est ça va être à voir, l'équipe d'Angleterre qui a bien commencé son tournoi, et puis là, le deuxième match, il est présentement en cours, donc c'est les États-Unis qui affrontent les Pays de Galles. On est à la 77e minute, les États-Unis qui mènent 1-0, donc face au Pays de Galles. Et puis, moi, au début du pool, j'avais mis les États-Unis deuxième, mais je savais que ce match-là était déterminant pour la suite. États-Unis-Pays de Galles, là, les États-Unis l'emportent. Donc, vraisemblablement, s'ils gagnent ce match, ils prennent une bonne option sur la qualification. Moi, de mon côté, je pense que les États-Unis, s'ils remportent ce match, ils se qualifient, c'est assuré. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Zach?
Je pense que je vais être d'accord avec toi. Je pense que les États-Unis sont. C'est encore une fois, si le match continue comme il est en ce moment, c'est de bonne augure pour les États-Unis. Mais faut pas oublier que le Pays de Galles aussi, Gareth Bale, ancien international, on le connaît, c'est un joueur qui est tout le temps performant, même s'il reste dans les dernières années un petit peu de difficulté en club. Je pense pas que forcément l'issue va jouer sur ce match. Je pense que l'issue va vraiment être. Je crois que ça va se décider à la dernière journée, États-Unis, Iran, Pays de Galles, Angleterre. L'Angleterre va finir premier, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'Angleterre, par exemple, s'ils gagnent leur prochain match face aux États-Unis, qui sont déjà à 6 points, les Pays de Galles gagnent contre l'Iran, bon, l'Iran serait déjà automatiquement éliminé. Je crois que l'Angleterre va vouloir aller chercher sa première place, mais peut-être contre le Pays de Galles, Southgate va peut-être faire rouler justement un petit peu son effectif sans forcément créer des lacunes dans son jeu. Donc je pense vraiment que ça va jouer à la dernière journée. Mais si, encore une fois, comme tu dis, si ça continue comme ça, je pense que les États-Unis sont bien partis pour venir deuxième.
Ouais, et puis à tout moment, il y a une de ces deux équipes qui peut faire un résultat contre l'Angleterre, donc ça serait peut-être à voir. Et puis maintenant, passons au groupe C, le groupe de Lionel Messi, l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Donc Messi qui va commencer sa dernière Coupe du Monde demain. Il n'en a jamais rapporté, tout comme Ronaldo, dont on va parler plus tard. Donc dans ce groupe, assurer ma quatrième position, l'Arabie Saoudite, selon moi, qui, je sais pas pour toi, mais je pense que ça va être très compliqué pour eux.
On pourrait être surpris, peut-être que la Pologne pourrait finir dernière. Maintenant, je pense que si on se bat sur papier, je pense que comme tu dis, l'Arabie Saoudite a plus de chances de finir dernière que première.
Ouais, et puis par la suite, première place, personnellement, je vois l'Argentine,
je suis d'accord avec toi. Ouais. L'Argentine qui est sur une très bonne lancée. Par exemple, des joueurs importants comme le Celso qui est blessé.
Ouais, c'est sûr que les blessures vont faire
l'Argentine,
mal.
L'Argentine, je pense, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, mais c'est une équipe qui aussi un petit peu surévaluée à cause de peut-être le Lionel Messi, justement. C'est une équipe, encore une fois, comme je dis, qui a des très bons joueurs, mais tu regardes les noms sur le papier, puis moi, souvent, ils sont comparés récemment au Brésil. Ouais, tu compares les deux équipes sur le papier, je pense que le Brésil a plus de qualité, mais après ça, ça va se voir sur le terrain. On sait que le Celso, c'est une pièce importante, mais on sait que Lionel Messi aussi, qui a repris une très bonne forme cette année. Honnêtement, je les vois finir premier avec... Je vais être un petit peu ambitieux, puis je vais dire la Pologne deuxième. Parce que je pense que le Mexique, bon, avec Guillermo Ochoa, on le sait, à chaque Coupe du Monde, c'est le meilleur gardien de tous les temps.
C'est une heure prime.
Mais Guillermo Ochoa, je pense qu'il ne peut pas faire le travail tout seul, mais le Mexique a des bons joueurs, le Zano, justement, je pense, Raúl Jiménez aussi. Mais je pense que la Pologne a plus, je dirais, une équipe peut-être plus balancée par rapport au Mexique, ce qui fait que la Pologne, selon moi, risque d'avoir... la deuxième place.
Ouais, également, je pense que la Pologne, deuxième, Lewandowski, Zielinski devant, ils vont faire mal à cette équipe du Mexique qui, l'équipe du Mexique, auparavant, c'était une équipe très dominante. En CONCACAF, les Mexicains qui remportaient la Ligue des Champions à chaque année, la Ligue des Champions CONCACAF. Et puis là, maintenant, les équipes du Mexique, ils ont un petit peu plus de difficultés. Donc, ça reste à voir à la Coupe du Monde comment ça va se passer. Mais le Mexique qui n'a pas battu les États-Unis ni le Canada en phase de qualification. Ouais. Donc là, on arrive à cette Coupe du Monde-là. C'est peut-être un peu plus compliqué à ce niveau. Selon moi, c'est entre eux et la Pologne pour la deuxième place. Ça risque d'avoir, mais l'Argentine premier, l'Arabie Saoudite dernier. Ouais, on est d'accord.
Je pense que c'est des prédictions assez safe.
Ouais, effectivement. Et puis là, maintenant, passons au groupe D, le groupe de nos voisins français. Pas nos voisins, nos cousins. Mais bon, cousins français, ouais. Plutôt, ouais. Donc, Australie, Danemark, Tunisie pour la reste de composition de ce groupe. Moi, je veux commencer par parler du Danemark, une équipe qui, selon moi, peut causer une grosse surprise.
J'allais mentionner le Danemark aussi. On l'a vu dans les matchs préparatoires, Danemark-France, le Danemark qui a gagné contre la France. Je pense que vraiment, le Danemark, cette année, ça va être les outsiders. Honnêtement, je fais ma prédiction comme ça, je vois le Danemark finir premier du groupe D, parce que c'est une équipe qui joue ensemble, puis c'est une équipe, comme on l'a vu comme la France, dans les matchs préparatoires, encore une fois, qui joue jusqu'à la dernière minute. Là, la France, ils ont un petit peu le sort s'achante sur eux, le destin s'achante sur eux, avec des blessures comme Benzema, Christopher Nkunku,
des gros joueurs. Là,
est-ce qu'ils vont encore avoir la malédiction des champions? Ça, on le sait pas. Mais c'est une équipe, encore une fois, qui a du talent. Mbappé, Griezmann, Tchouaméni, Kamavinga, qui vont remplacer le double pivot Pogba-Kanté. Olivier Giroud aussi, qui fait son retour en sélection, qui a très mérité, qui joue très, très bien à Milan. Mais honnêtement, je vois le groupe finir Danemark en premier. Okay. Danemark qui finit premier. Ensuite, à deuxième place, je vois entre... Écoute, la Tunisie, je suis pas assez renseigné sur cette équipe-là pour honnêtement donner une opinion valable. L'Australie, je sais que c'est une équipe qui a des bons joueurs aussi. Je vois quand même la France finir deuxième, mais honnêtement, je serais pas surpris si le Danemark finit premier et on voit une Australie ou Tunisie finir deuxième, mais je vois pas France finir dernier. Je vois France au moins finir troisième et éventuellement deuxième.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense vraiment que ça serait un non-sens de dire que la France ne pourrait pas se qualifier. Et puis, bon, c'est une puissance. Il y a ça qui est la malédiction des anciens champions, mais ça reste que même si t'enlèves ces joueurs-là blessés, Kimpembe, Nkunku, bref, Benzema, premièrement, ça fait en sorte que Giroud va pouvoir jouer devant. Ça, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, puisqu'en 2018, ils ont remporté avec Giroud devant. Donc, c'est pas du nouveau. Et puis, Benzema, oui, c'est un bon joueur, mais c'est deux portraits différents, je trouve.
Ouais, profils différents.
C'est deux profils différents.
Giroud, c'est vraiment un attaquant, comme on dirait à l'ancienne. Il utilise son corps pour faire des déviations, pour frapper aussi. On sait qu'il est capable, avec Milan récemment, il a mis une superbe une superbe frappe à la cobratique. Mais Dzema, c'est vraiment un joueur qui est plus dans la création. Fait que vraiment, c'est deux profils différents, mais je pense que la France va être capable, surtout avec l'appel de Marcus Thuram. Joueur très physique, plus que Giroud, beaucoup plus rapide aussi, mais encore une fois, c'est un profil différent. C'est un profil vraiment plus percutant qu'un Giroud. Fait que ça va être intéressant de voir comment la France va s'adapter.
Mais ils ont assurément la profondeur pour se qualifier. Dembélé qui va avoir du temps de jeu, Griezmann, Mbappé vraiment qui va être la pièce maîtresse de l'équipe. Et puis le Danemark depuis, malheureusement c'est triste à dire, mais depuis l'accident avec Eriksen, ouais. C'est vraiment une équipe qui est soudée et puis qui fait des très bons résultats en Ligue des Nations, à l'Euro également. Et le reste, Tunisie, Australie, selon moi c'est entre eux pour la troisième, la quatrième.
Le Danemark c'est une équipe qui a vraiment monté en puissance. Puis Eriksen depuis... Ça va sortir un petit peu drôle, mais depuis qu'il est sur le pacemaker, Eriksen, on dirait que son niveau a doublé. Moi, je pense qu'en fait, je pense que cet incident-là ça lui a redonné l'amour du football. Je pense que après cet incident-là, le fait qu'il ait eu la chance de pouvoir rejouer, comparé justement, on passe à un Kun Agüero qui malheureusement a dû prendre sa retraite, a des problèmes similaires. Écoute, je pense que pour lui, la chance qu'il a de jouer sur un terrain, ça l'a motivé. Puis un Eriksen motivé, ça motive toute une équipe. Aussi un Simon Kjær défensivement, qui est un patron. Je pense que c'est bon. C'est de bonnes augures pour eux.
Ouais, effectivement. Donc, passons maintenant au groupe E. Donc, groupe de l'Allemagne, l'Espagne, le Japon et le Costa Rica. Donc, ce groupe-là qui est quand même assez difficile. Pas le groupe de la mort,
intense,
mais
groupe
quand même intense. Bon, je vais commencer avec la quatrième position. Selon moi, Costa Rica dernier.
Je suis d'accord avec toi.
Pourquoi? Costa Rica, c'est une équipe qui, bon, dans les dernières Coupes du Monde, ils étaient bons. Mais là, c'est les mêmes joueurs qui sont là en 2014, en 2018.
C'est une équipe qui
vieillit. Donc, ouais. Vieillit énormément. Navas devant le filet, c'est pas mal de ce joueur qu'on connaît. Tous des joueurs qui maintenant jouent dans le championnat costaricain.
Ouais.
Donc, bon, ça va être compliqué. Mais là, je pense que deuxième, troisième, première position, là, il y a peut-être à parler. Le Japon,
moi, je
vois quand
la
même belle équipe.
Premiers. Je vois la main que c'est le premier. Je pense qu'avec Hansi Flick, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Puis c'est une équipe aussi qu'avec Hansi Flick, encore une fois, c'est une équipe qui n'hésite pas à se renouveler. On l'a vu, le choix de ne pas mettre Hummels dans la liste a fait se sursauter beaucoup de personnes. Mais
de l'autre côté, quand tu as Rudiger,
Schlotterbeck, c'est des défenseurs solides.
On s'est renouvelé très bien.
On sait aussi que Hummels, c'est un gars qui a gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne il y a quelques années.
Pour l'expérience.
Bon, Boateng, malheureusement, il n'y a plus le niveau non plus.
Ouais.
Mais on sait que c'est une équipe qui a encore une fois un Thomas Müller, un des joueurs les plus sous-cotés tous les temps. Un joueur tout le temps performant avec l'Allemagne. Il n'y a jamais à redire, même avec le Bayern. Mais je vois l'Allemagne finir premier. Et là, c'est peut-être une petite prédiction un petit peu biaisée de mon côté, mais je vois le Japon finir deuxième devant l'Espagne. L'Espagne, c'est plus la menace qu'on connaît. C'est plus l'Espagne de Casillas, de Ramos.
Ouais, c'est plus Xavi, Iniesta, ces grands joueurs-là.
Puis c'est sans tirer de flèche à Alvaro Morata. Mais quand ton numéro 9 titulaire, c'est Alvaro Morata ou Ferran Torres, puis c'est pas que c'est des mauvais joueurs, mais c'est que c'est plus la menace David Villa. C'est la menace Fernando Torres.
C'est un peu comme l'Allemagne.
C'est vraiment une équipe qui est en très grosse transition. On va avec des Pedri, des Gavi au milieu de terrain. C'est vraiment une équipe qui est en grosse transition. Le Japon aussi qui a fait des choix, le sélectionneur qui a fait des choix vraiment décevant, qui n'a pas cherché Kyogo Furuhashi du Celtic et Rewa Tate aussi. Deux joueurs très performants au Celtic et qui ont rapporté vraiment beaucoup de bien à l'équipe du Japon, mais le sélectionneur a voulu rester sur ses bases solides, ce qui est dommage parce que c'est les joueurs vraiment qui auraient pu aider. Mais en même temps, le Japon, on le connaît, c'est une équipe qui attaque à 11, qui défend à 11. On l'a vu en 2018 sur leur défaite de Krefker face à la Belgique. Mais je crois que le Japon va vraiment faire la surprise. Il va finir deuxième, surtout avec des joueurs comme Kamada qui joue du très bon football. Je pense que c'est vraiment la surprise.
Ouais, de mon côté, Allemagne premier, Espagne deuxième. Pourquoi? Selon moi, bon, c'est sûr que Pedri, Gavi, c'est des joueurs très jeunes pour mener cette équipe 18-19 ans. Donc, c'est plus Xavi, Iniesta, mais selon moi, c'est des joueurs qui, quand même, peuvent tirer cette équipe vers le haut. Il y a un mix de jeunesse et d'expérience. Donc, de la bonne jeunesse, de la bonne expérience, mais c'est sûr qu'il ne faut pas en donner trop sur ces joueurs-là. Ansu Fati également. Donc, ça va être à voir, mais le Japon peut créer la surprise, finir deuxième.
Ouais, moi, je pense que c'est un. Le Japon, c'est une sélection qui est capable d'amener un football qu'on voit pas partout.
Ouais, effectivement. Donc là, passons au groupe F, le groupe du Canada. On en a parlé un peu tantôt.
Le groupe de la muerte.
Le groupe de la mort, on va en parler vite fait. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Selon moi, première position, Croatie. Deuxième, Belgique. Troisième, Canada-Maroc. Ou Maroc. Mais ça reste que, bon, c'est le cœur qui parle, mais je pense que le Canada peut quand même accrocher peut-être une deuxième place, mais ça va être compliqué. Il va falloir vraiment se donner. Et puis
Canada,
si on le fait... Je pense que si on accroche la deuxième place, par la suite, ça va être très compliqué. On va avoir des joueurs qui ne seront pas en forme. Donc, on va vraiment avoir tout donné sur cette phase de groupe et ça sera compliqué.
Mais le Canada, on arrive là sans pression. On arrive là pas comme la Belgique, qui ont des performances dans les dernières années incroyables, la Croatie et même le Maroc, qui ont fait des bonnes choses en Coupe d'Afrique aussi. On arrive là, encore une fois, très, très outsider, puis à juste titre, mais on arrive sans pression, fait que je pense que c'est peut-être l'avantage qu'on a sur les autres équipes. Mettons, t'aurais bien le Costa Rica dans ce groupe-là, la Belgique, Croatie, Maroc auraient été dans la même situation. Pour eux, puis sûrement dans leur tête, c'est les équipes qui ont le plus de chances de finir premier, deuxième. Donc, nous autres, on n'arrive pas avec... Ils vont penser que pas forcément que c'est un match facile contre le Canada, mais que c'est le match forcément le plus atteignable de tous les autres matchs.
Un match à gagner, définitivement.
Fait, je pense que pour nous, c'est peut-être la chance qu'on va avoir par rapport à ça.
Ouais, donc on en a parlé tantôt, donc on va passer un petit peu rapidement. Là, on est rendu au groupe G, donc il nous reste deux groupes. Groupe G, c'est celui de la nation favorite. Donc je sais pas pour toi, et puis on va se donner un peu de temps tantôt à la fin pour aller de notre prédiction qui va l'emporter, qui va finir meilleur buteur, qui va créer une surprise. Donc groupe G, rapidement, Brésil, Cameroun, Serbie, Suisse. Assurément, moi je passe le Brésil premier.
Brésil premier. On connaît le talent de Neymar, Rodrigo, Vinicius. Des choix un petit peu bizarres, peut-être du côté du sélectionneur, mais encore une fois, c'est une équipe très, très solide. Défensivement, la même affaire, des joueurs solides. Des joueurs qui n'ont pas été appelés, par exemple, je pense à un Gabriel d'Arsenal.
Étonnant. Firmino également.
Firmino aussi, mais ça reste une équipe solide. Puis deuxièmement, deuxième position, moi je vois la Suisse se qualifier. La Suisse, on sait qu'en position internationale, encore une fois, c'est une équipe comme le Japon qui attaque à 11, qui défend à 11. Je la vois deuxième avec ce combat avec la Serbie. Et malheureusement, je vois le Cameroun dernier. Pas parce que je pense que c'est une équipe qui a moins de talent que les autres. Bon, Samuel Eto'o sera pas content après moi.
Ouais.
Mais je pense que la marche Coupe du Monde, Brésil, surtout avec l'équipe du Brésil, et la Serbie et la Suisse, surtout que Serbie et Suisse, ils ont beaucoup, puis là, c'est bon, ça va faire un petit peu profilage, mais Serbie et Suisse, ils ont beaucoup de joueurs qui proviennent d'Europe de l'Est, puis l'Europe de l'Est, souvent, c'est des joueurs qui sont très, très solides niveau football, physiquement et sur le terrain.
Ouais, Vlahovic,
Cher, Shaqiri, ouais. Xhaka, Seferovic, Milinkovic-Savic, le Cameroun, mais aussi c'est une équipe qui est très forte physiquement, qui arrive à amener du bon foot. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le côté d'Europe de l'Est qui... Puis sûr, la Suisse, c'est pas en Europe de l'Est, mais avec des descendants en Europe de l'Est, c'est un pays qui est beaucoup plus mixé. Je pense que le Cameroun, malheureusement, va avoir des difficultés face à ça et à la qualité du Brésil.
Ouais, effectivement. Donc, Brésil premier, c'est assuré. Brésil, ils ont une équipe de stars. Il y a des stars partout, chaque position. Donc, vraiment, première position. Deuxième, c'est entre la Serbie et la Suisse. Moi, perso, je mets la Suisse parce que la Serbie, ils ont que des attaquants. Donc, il y a Vlahovic, Tadic, mais défensivement, il n'y a plus rien.
C'est plus faible. Ils ont des bons joueurs aussi, mais c'est plus faible.
Ouais, et puis Cameroun, dernier. Donc là, maintenant, on va passer au dernier groupe. Et là, je suis hâte de parler de Ronaldo. Donc,
groupe H, oui.
Moi, avec, j'ai également hâte de parler de Ronaldo qui va être à sa dernière Coupe du Monde. Donc, Portugal, Corée du Sud, Uruguay et Ghana.
On va dire la rencontre fatidique entre le Ghana et l'Uruguay.
La revanche peut-être pour le Ghana.
Écoute, je vois le Portugal finir premier encore une fois. Cristiano Ronaldo, c'est de la misère avec son interview polémique récemment. On ne sait pas ce qui va arriver, mais t'as João Cancelo, t'as Nuno Mendes.
T'as vraiment un effectif de classe.
T'as un effectif du top mondial. Après ça, l'Uruguay, moi, je pense que c'est une équipe qui est très surévaluée par beaucoup. Beaucoup de qualité, encore une fois. T'as le Matador, Cavani, Suarez, Darwin Núñez, Federico Valverde, défensivement aussi, t'as des bons joueurs. Mais je pense que c'est une équipe qui se fait vieille. Puis la transition, je pense que c'est une équipe qui...
Elle n'est pas encore vraiment complétée aussi. Elle n'est pas complétée.
C'est une équipe qui va avoir la difficulté dans ces transitions-là. Est-ce que le sélectionneur va faire une attaque encore, la mythique attaque Cavani? Suarez, est-ce qu'il va être un peu plus gourmand, ambitieux, tenter un Núñez, Suarez? On ne le sait pas encore. Donc, moi, je pense qu'il y a une équipe qui est un petit peu surcotée. La Corée du Sud qui arrive là, encore une fois, outsider aussi dans son groupe, qui peut impressionner. On l'a vu justement en 2018, mais je pense que vraiment, on va finir avec un Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana. Ghana, d'excellents joueurs, mais Ghana... Ah non, à la Corée du Sud, t'as un Young Minson qui est vraiment un joueur à son poste.
Non, il n'y a pas de tort au Ghana.
Au Ghana, je pense pas qu'il y a un joueur qui est dans le top 3 mondial à son poste, puis c'est peut-être ça qui va leur coûter comparé à d'autres équipes, justement, comme la Corée du Sud, le Portugal ou l'Uruguay.
Ouais, c'est ça. Le Ghana, c'est une équipe quand même diversifiée. On est allé chercher des joueurs, il y a la double nationalité, on leur dit venez jouer pour nous. Donc, on a ramené Inaki Williams, qui est espagnol, et Tariq Lamptey, anglais. Ouais, et puis la Corée du Sud, il repose vraiment sur Rugminson. Donc là, ça va être compliqué à ce niveau-là. Moi, je pense que Portugal prend la position. Uruguay deuxième. Par la suite, troisième position, j'y vais avec le Ghana et Corée du Sud quatrième. Ouais. C'est vraiment compliqué ce groupe-là. Troisième, quatrième, je sais pas qui placer.
C'est à juger exactement, oui.
Je sais pas qui placer entre la Corée du Sud et le Ghana. Et puis là, on va y aller nos prédictions un peu plus. Donc, on va aller un peu plus dans le piquant. Et puis c'est là qu'on risque peut-être de se tromper.
Juste faire une petite notification. Le Pays de Galles a marqué. Parce que l'Angleterre, penalty de Gareth Bale à la 92e minute. Donc, je pense que ça va se finir sur un 1-1. Fait qu'encore une fois, comme je te dis plus tôt, ça va être.
Ça va être vraiment le reste. Ça, c'est un bon match. Vraiment,
pour moi, ça va être le dernier match qui va décider.
Pour les amateurs, ça va être vraiment beau à voir. Et puis, bon, Gareth Bale qui marque contre les États-Unis alors qu'il n'a pas joué de la saison pour Los Angeles. Ça, c'est quand même assez drôle.
Bon,
donc,
moi, je trouve un petit peu dommage parce que j'avais mon Sergino Dest sur fut qui a un plus 4, un plus 3. Mais bon, le Pays de Galles qui marque aussi, c'est
très. Peut-être contre l'Iran. Donc là, pour on passe un peu à un piquant. Donc, buteur, selon toi, qui finit meilleur buteur de la compétition? Donc là, on sait, il y a déjà trois joueurs qui ont deux buts. Là, c'est à savoir qui tu penses qui finit meilleur buteur. Ou du moins ton top 3.
Écoute, ça serait pas facile, d'après moi, de juger qui finira meilleur buteur dans une Coupe du Monde. Souvent, c'est un autre Tyler. Souvent, là, c'est pas le gars qu'on pense que ça va être le meilleur buteur. Mais je vais causer la surprise. Puis je pense que le meilleur buteur pour cette Coupe du Monde, à mon avis, je pense que ça va être Harry Kane.
Également, c'est ça que j'avais prédit au début Harry Kane. Là, tu vois, il y a déjà Bukayo Saka qui a deux buts. Mais je pense pas qu'il peut marquer deux buts tout au long du tournoi. Donc, selon moi, Harry Kane, peut-être Mbappé, mais ça va être assurément un joueur qui va se rendre loin. Peut-être Neymar même.
Je mets Harry Kane parce que leur force de groupe, sans tirer des flèches encore une fois aux autres pays contre qui ils vont jouer.
Là, il peut marquer plein de buts.
Harry Kane, c'est un joueur excellent. Puis c'est un joueur qu'on sait qu'encore une fois, c'est une menace de partout, des deux pieds, de la tête. Harry Kane, c'est un joueur qui peut marquer de partout. Mais aussi, des joueurs, comme tu me dis, peut-être faire un top 3. Harry Kane qui va dans éventuellement dans ce top 3-là. Je vois peut-être aussi Enner Valencia, justement, qui a marqué deux buts face au 14. C'est une réponse peut-être surprenante, mais Enner Valencia, c'est un joueur qui est capable d'amener des belles choses offensivement pour l'Équateur. Donc, je pense qu'il y a déjà deux buts. Même si c'est contre le 14, ça reste deux buts. Donc, je pense qu'il y a des bonnes chances. Puis, troisièmement, écoute, je vais sortir un peu des sentiers battus, mais je vais y aller avec un Robert Lewandowski.
J'aime bien.
Qui, dans un groupe où que le Pologne peut finir deuxième, ça va être un joueur important pour la Pologne, puis je pense que c'est un joueur qui va être capable d'aller chercher les débuts.
Ouais, effectivement. Donc là, on a parlé des buteurs. Là, on veut savoir la nation qui va gagner. Selon moi, écoute, je vois une finale Brésil-Portugal. J'ai vu le tableau. Là, il ne reste plus beaucoup de temps en nombre pour parler, mais Zachary, j'ai tes prédictions. Qui remporte la Coupe du Monde? Et puis, par la suite, si tu veux y aller, qui cause une surprise?
Bon, ben, le Canada va gagner la Coupe du Monde. Non, enfin, c'est ce qu'on espère. Mais écoute, moi, je pense pas que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde. Ce serait beau de voir Messi gagner la Coupe du Monde. Et je vais causer la surprise aussi, mais le Portugal, je suis pas sûr qu'il soit en moyenne de gagner la Coupe du Monde. C'est des nations qui ont la possibilité forcément de gagner la Coupe du Monde. Mais je vois vraiment soit le Brésil emporter la Coupe du Monde, encore une fois. Puis là, je vais causer la surprise, je pense aussi, mais le Danemark. Ouais, le Danemark. Sur papier, ça n'a pas les niveaux du Brésil, ça n'a pas les niveaux du Portugal, ni de l'Argentine. Puis Lionel Messi, très bon joueur. Argentine, très bonne équipe qui, honnêtement, ça peut faire surprendre, mais le Brésil, l'Argentine qui sont très, très bons. Mais Brésil, Argentine, je pense que c'est des très bons contenders. Le Danemark qui peut causer la surprise et le Portugal aussi en arrière. Mais honnêtement, je pense que ça va être le Final Four, là, je pense que ça va être ces quatre nations-là.
Effectivement.
Atteignables.
Et puis ça, moi aussi je pense que ton avis, Danemark, je pense qu'ils vont aller loin. Et puis ça va vraiment être une belle Coupe du Monde qui a déjà commencé et qui commence. C'est vraiment les amateurs de foot pour le prochain mois. Ils vont vraiment avoir du bon foot à se mettre. Ils vont se régaler en fait devant leur télé. Il y a le Canada qui joue, l'Argentine, le Brésil, il y a des stars. Ronaldo également qui s'adonne à cette dernière Coupe du Monde.
Football. Il n'y a pas de bière, mais...
Bon, il n'y a pas de bière, c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a certaines personnes qui boycottent peut-être cette Coupe du Monde-là. Mais bref, ça reste à voir Coupe du Monde qui va se dérouler à RDS. Je vous invite à le regarder. Et puis, donc, merci. Je vous remercie à mon nom, Félix Lajoie, et puis Zachary Lajoie. On vous remercie d'avoir été fidèles et de nous avoir écoutés à Chiz au 94,3 à Conduite Antisportive. Donc, passez une excellente fin de journée.
Merci. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
La tournée 95 s'arrête au Centre Vidéotron le 27 avril prochain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Les billets sont en vente maintenant sur ticketmaster.ca. Tout, il faudrait tout tourner. Angèle au Centre Vidéotron le 27 avril, une présentation de Gestev. Le nouvel album 95, en vente partout.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part! Mario et Bagorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6-6, Desjardins. Faites-moi confiance, la gang, venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Ici Gala Dionne pour Pomme Magazine, une émission culturelle complémentaire au magazine papier de Pomme. Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et des réflexions sur les principaux enjeux culturels. Votre rendez-vous culturel, c'est à tous les mercredis sur les ondes de Chiz 94.3 de 14h à 15h.
Thank you.